Bon, décortiquons tout ça. Aujourd'hui, on fait une plongée au cœur des forêts ardennaises, en Belgique. Et on va parler d'un oiseau qu'on appelait le fantôme.
Ouais, le fameux fantôme des forêts, la cigogne noire.
C'est ça. Au 19e siècle, l'activité humaine l'avait complètement effacée de la région. Et puis, truc incroyable, en 89, elle a décidé de revenir.
Et c'est un retour totalement spontané, hein. Il n'y a pas eu de réintroduction, rien.
Exactement. Donc, l'objectif de cette plongée aujourd'hui, en croisant des données GPS récentes et des études écologiques de la vallée de la Smoy, c'est de comprendre comment ce retour inattendu est en train de redessiner complètement l'aménagement du territoire.
Parce que ce retour, c'est vraiment un petit miracle quand on se penche sur la biologie de l'animal. Elle n'est pas revenue là par hasard. La vallée lui offre un cadre ultra spécifique.
Ben, c'est le moins qu'on puisse dire. En parcourant nos sources, j'ai vu des statistiques hallucinantes. L'oiseau installe son nid à 439 mètres d'altitude en moyenne.
Ouais, très précis.
Et en plus de ça, ce nid doit être caché à 1280 mètres, très exactement, de la lisière de la forêt.
Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de survie derrière ces chiffres. À environ 439 mètres d'altitude, la topographie des vallées ardennaises crée des courants thermiques parfaits.
Mais pourquoi elle a besoin de ces courants? L'oiseau n'a pas de GPS intégré pour mesurer l'altitude, si?
Non, bien sûr que non. En fait, la cigogne noire a une envergure immense. Du coup, elle a impérativement besoin de ses ascendances d'air chaud pour décoller lourdement depuis la canopée.
Ah, donc c'est de l'aérodynamisme pur, en fait.
C'est ça. Sans ces courants, elle épuiserait toute son énergie juste pour s'envoler.
D'accord, je comprends mieux l'altitude. Et pour cette distance d'un peu plus d'un kilomètre par rapport à la lisière?
Alors ça, c'est son bouclier anti-stress. À cette distance, la densité de la forêt filtre les bruits extérieurs et bloque l'accès aux prédateurs, mais surtout à l'humain et à ses chiens.
Ah oui, on sait que l'humain le dérange très vite.
Voilà. Il faut comprendre que cette espèce ne produit qu'une seule nichée par an. Donc, au moindre dérangement prolongé, les parents paniquent, abandonnent le nid, et bah, toute la saison de reproduction est perdue.
Je vois. L'oiseau est biologiquement incapable de faire des compromis, en fait. C'est un peu comme une célébrité ultra exigeante.
Complètement.
Et son menu est tout aussi strict. Elle se nourrit de poissons d'eau très pure, comme le chabot. Par conséquent, l'humain doit complètement modifier ses usages.
Exactement. Par exemple, si le débit de la rivière chute sous les 2,2 mètres cubes par seconde, eh ben, l'interdiction de faire du kayak tombe immédiatement.
Ouais, on ferme la rivière. Mais là, je vais me faire l'avocat du diable. On compte à peine 60 à 90 couples en France, par exemple, avec des domaines vitaux qui frôlent les 800 km² par famille.
C'est énorme, oui.
Est-ce que c'est vraiment logique de pénaliser l'économie locale, de bloquer le tourisme fluvial et la sylviculture, juste pour une poignée d'oiseaux?
Bah, c'est une excellente question. Et c'est là que l'écologie devient passionnante. L'oiseau n'est en fait qu'un prétexte. C'est ce qu'on appelle une espèce parapluie.
C'est-à-dire que son exigence, elle protège...
Elle protège tous les autres en dessous, ouais. Quand le réseau Natura 2000 impose de sauvegarder la ripisylve pour la cigogne, les bénéfices explosent pour tout le monde.
Alors, la ripisylve, pour qu'on soit bien clair sur le terme...
C'est cette bande de végétation touffue, tu sais, les arbres et les racines qui bordent directement les rivières.
D'accord, je vois.
En la préservant pour cacher les zones de pêche de la cigogne, on maintient les berges contre l'érosion, on filtre les polluants agricoles et on offre un super abri aux amphibines.
Ah, c'est génial. Donc, quand on interdit les kayaks pendant les sécheresses, c'est pareil.
Exactement. On évite que les pagayes raclent le fond et détruisent les œufs de tous les poissons de la rivière, pas juste la nourriture de la cigogne.
C'est là que cette histoire dépasse largement la forêt ardennaise. Cette logique de l'espèce parapluie, en fait, elle nous concerne tous.
Si on relie ça à la vue d'ensemble, oui, c'est clair.
Finalement, protéger farouchement le débit d'une rivière pour un oiseau, bah c'est aussi garantir la sécurité de nos propres réserves en eau face aux sécheresses estivales.
Tout à fait. Et les mesures du nouveau parc national vont encore plus loin aujourd'hui en créant une trame noire. On réduit la pollution lumineuse des villages la nuit.
Ah oui, le fameux silence visuel.
Ouais, ça aide la faune sauvage, mais ça restaure aussi les cycles des insectes pollinisateurs dont notre agriculture a cruellement besoin.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, Hoffmann? Surtout que les suivis GPS récents montrent que les jeunes cigognes partent explorer de tout nouveaux territoires.
Ça veut dire que la conservation aujourd'hui, bah, c'est plus juste mettre une cloche sur un nid. L'aménagement du territoire évolue pour anticiper, fluidifier la connectivité des cours d'eau et laisser la nature s'étendre d'elle-même.
C'est vertigineux de voir comment tout s'imbrique. Si le retour spontané d'un simple oiseau fantôme exige de repenser le débit d'une rivière, l'éclairage des villes et le silence des forêts, quelles autres frontières invisibles de la nature sont franchies quotidiennement partout ailleurs, sans même que personne ne s'en aperçoive ?